Salut les diggers. Cette semaine, c'est encore moi, Lucie de Westrack au Havre, qui pilote votre escale sonore hebdomadaire. Pour beaucoup, les premières années de la Cafetera Roja, c'était l'Auberge Espagnole, le film de Klapitsch, sorti en 2002, porté par la magnifique BO de l'ancien programmateur de Nova, Loïc Durie. La Cafetera Roja, un collectif hip-hop, rock festif, bête de scène, bouffeur de planches et créateur d'un euro-rap vitaminé de guitare et de batterie. Et aujourd'hui, on vous présente la sortie de My Path, nouvel album paru le 27 février. Actif au sein de nombreuses formations pop-rock et indé belges, Antoine Mésager, Pascalini et surtout l'esprit démiurgique derrière Monolithe Noir, né à l'origine comme un projet de musique électronique en solo, c'est à la faveur d'un excellent troisième album, Rhin, que le bloc de granit sombre et froid s'est fissuré en un trio de croc-troc nerveux, acquérant au passage un pouvoir de fascination décuplé. C'est Cédric de Fréquence Mutine qui nous propose de découvrir ce groupe avec leur nouvelle sortie, La Foie Gelée. Quand elle n'est pas occupée à faire pousser ses légumes depuis son studio en forêt près de Paris, l'artiste franco-gaénienne Po enchaîne les voyages entre les scènes d'Afrique et d'Europe pour partager ses sets et sa personnalité musicale explosive. Une interview de l'artiste Po, enregistrée dans le cadre de sa performance au Bar en Transe, est à retrouver en deuxième partie de cette émission. La Cafetera Roja, c'est le refus des étiquettes. Ils ne sont pas rock, pas hip-hop, pas trip-hop, pas reggae, pas chanson, pas jazz, pas latino. Leur gloobie bulga, c'est le temps qui l'a mijoté. La sono mondiale s'y est invitée, leur langage, ils se le sont inventé. Ils sont aujourd'hui hip-hop world, tout autant que rock électro. Découvrons la Cafetera Roja, interview de Marie de Sol FM.
Et nous sommes ravis d'accueillir la Cafetera Roja à l'occasion de la sortie, je vais le faire en français, de Mon Chemin, le nouvel album. 15 ans que le combo sillonne les routes d'Espagne, de France et d'ailleurs, sans jamais cesser de faire reculer les frontières artistiques, les bouleversant, cassant les codes en s'affirmant comme un groupe de scène furieusement joyeux, authentique et engagé, bref, vivant. Merci beaucoup à Vincent et à Aurélia de nous avoir rejoints pour parler de cet opus tout beau, tout frais, tout neuf et parler aussi du parcours assez atypique de la Cafetera Roja. Je le prononce très mal, je ne parle pas un mot d'espagnol.
Non, franchement, tu te débrouilles bien. Franchement, tu te débrouilles.
T'es très bien élevée, Aurélia.
Non, vrai. Il y a pire que toi. T'inquiète.
Alors, en fait, le groupe existe depuis une bonne quinzaine d'années. Toi, tu es là depuis le début.
Depuis 2008, hein. Ouais.
Donc, tu as commencé juste au sortir de l'adolescence et puis bien sûr le combo a évolué et donc le dernier arrivé dans l'équipe c'est toi Vincent à la guitare.
Oui, je suis pas le dernier, il y a quelqu'un qui est arrivé quand même après moi. Moi je suis là depuis le mois de juillet.
D'accord.
Voilà, donc ça, le mois d'août, donc ouais. C'est quand même assez récent et on a aussi accueilli Tom au mois de janvier.
D'accord, yes. Ça veut dire que quand même, on en parlera peut-être si on a le temps, c'est pas facile d'intégrer un combo qui a une telle identité avec aussi un tel répertoire.
Oui, c'était du boulot, mais par contre, ça a été assez facile parce que l'accueil a été au top et c'était assez enthousiaste, donc c'était cool.
L'histoire dit, Aurélia, que vous vous êtes rencontrés les uns les autres à Barcelone.
Ouais, c'est ça.
C'était
en 2008. C'était une époque, en fait, où il y avait énormément de jam sessions. Il y avait beaucoup de musiciens de rue aussi. Parce qu'il y avait énormément de tourisme à Barcelone. Bon, ça l'est toujours. Et en fait, certains jouaient dans la rue pour gagner 3 sous. Et puis le soir, on allait dans les jams. Et c'est dans ce cadre-là qu'on s'est tous rencontrés. Et ce qui était vachement cool, c'est qu'à Barcelone, si tu veux, c'est une ville qui est très cosmopolite.
Ben oui, toujours hein, d'ailleurs.
D'où un peu la configuration de notre groupe, en fait. Dès le départ, on a été confrontés à plein de cultures musicales différentes, plein d'origines. Et en fait, on n'avait pas envie de se cantonner à un style. Et c'est un peu... On s'est dit, allez, on met tout le monde dans le même saladier et on voit ce qui sort. Donc, moi, perso, j'adorais le hip-hop, mais je venais plus du monde du rock, en fait. Mais j'avais envie de tester, de rajouter cet ingrédient.
Il y a une couleur quand même. Il y a toujours eu une couleur hip-hop dans la cafetière.
Bien sûr.
Mais ce qui est compliqué chez vous, c'est qu'il y a plein de couleurs différentes qui, effectivement, se marient. C'est vrai aussi que le line-up a pas mal changé, c'est normal, en 15 ans. mais que la composante musicale, votre ADN, lui, n'a pas bougé. Alors, c'est peut-être moi, j'ai peut-être des souvenirs un peu plus anciens, de trucs un peu plus planants, trip-hop, il me semble que ça l'est moins. Mais quand même, le mélange, il est toujours là, quoi.
Le mélange est toujours là parce qu'en fait, depuis le départ, y a les fondateurs du groupe, on est là, les chanteurs, en fait. Souvent, ce qui fait l'identité d'un groupe aussi, c'est les voix. Et les trois chanteurs, on est trois compositeurs aussi, donc je pense que l'identité, elle vient aussi de là. Et elle vient des styles, par exemple, donc le rappeur, il est autrichien, donc c'est lui qui va apporter ce côté hip-hop, ce côté, il chante en allemand aussi, il chante beaucoup en anglais. Et puis après, on a tout le côté latin aussi. Donc avec
ça groove, quoi.
Et ça groove, voilà. Donc il y a ce côté-là aussi, Barcelone, avec le bassiste Fiti. Qui est lui, celui qui chante en espagnol, qui chante en catalan, et qui va apporter ce soleil, en fait, dans notre musique.
Alors, l'autre spécificité, c'est que vous chantez en plusieurs langues à l'intérieur d'un même morceau, parfois. Et ça, ça a toujours été le cas aussi.
Et ça, ça a toujours été le cas, parce qu'en fait...
Chacun écrit sa partie, comment ça... Je me suis toujours demandé.
Ouais, c'est ça, chacun écrit sa partie. Évidemment, on se met d'accord sur la thématique. De quoi tu parles dans cette chanson, celui qui est à l'origine du morceau. Mais c'est vrai que parfois, en fait, il y a des quand t'es bilingue, trilingue, ce qui est le cas de tous dans
de
le groupe, il y a des mélodies, il y a des chansons qui t'inspirent dans une langue ou qui te rappellent, par exemple, ta langue maternelle. Ou moi, dans mon cas, par exemple, sur le dernier album, il y a une chanson qui s'appelle La Vita è Bella. Et moi, je suis d'origine italienne, donc du coup, cette mélodie, elle m'a fait penser à ça. Je me suis dit, tiens, je vais aller piocher dans dans l'italien aussi, en fait. On n'a pas de limite par rapport à ça. Ouais, c'est cool.
Alors, donc, La vie est belle, qui a été un des singles. C'est un des singles.
Ouais, c'est un des singles du dernier album My Path.
Donc, mon chemin, et vous tracez votre chemin avec toujours beaucoup de bonheur et de plaisir. On va s'arrêter sur les singles. C'est pour vous des évidences, c'est les morceaux les plus lumineux, parce que ceux que vous avez choisis, là, franchement, ce sont des morceaux gays, même si La vie est belle, c'est une rupture, quoi. C'est un des chemins qui se séparent.
Ouais, c'est vrai, mais c'est ça a été un peu un hasard de choisir ces singles-là, et puis aussi un compromis avec toute l'équipe avec laquelle on travaille. On travaille avec un label français qui s'appelle Greenpeace Records. Oui. On les salue au passage. Et du coup, voilà, c'était aussi un compromis de se dire parce que comme tu l'as dit avant, c'est tellement éclectique ce qu'on fait. Donc, il fallait bien choisir à un moment donné. Et on s'est dit, pourquoi pas aussi un peu d'espoir aussi. C'est cool de donner un peu d'espoir aux gens.
Allez, on vous écoute. I'm on a point blank, no, I'm not your savior. The Arty Beagle and all in up the power. I'm a luster, I'm a crazy, I'm a foster, I'm a busy always. Always the same and no time, no time, no time. No penses, que estás sola al camino, estaré allá. Hoy es la línea que marca la libertad. No dejes que la vida pase pa'l davant. Viu cada moment com cal. Un dia em vas dir una frase que ja guardat al meu cor. Era simple, era dolça, era com una cançó. El somni d'una esperança de no tenir mai més por. No penses que estàs sola al camí, jo seré allà. Que és la línia que marca la llibertat. No deixis que la vida et passi pel davant i viu cada moment com cal. Sun is rising every day, got no time to hesitate, even if it is a cloudy day. I know the joy is coming back to me, take a deep breath and breathe, and my memories pulling on a leash. All my feet are keeping my feet, cause I know they're serving me, solving me, and it's just a sad to leave them all behind. Because today I live away and I'll be free, 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 for a moment of peace. Soy es la línea que marca la libertad. La línea que marca la libertad. No
es la línea que marca la libertad. Zague es la línea que marca la libertad. Zague es la línea que marca la libertad.
Un extrait à l'instant sur les antennes des radios Ferraroc de l'album de la Cafetière Rora. Donc cette cafetière rouge qui porte bien son nom, parce que ce morceau-là qui est donc aussi a été clippé, qui s'appelle Ip Costa, est chanté en catalan et c'est important pour vous, Aurélien. Vous avez toujours eu des valeurs que vous avez défendues.
Alors le sujet de la Catalogne, je suis pas catalane, mais c'est un sujet qui est long et difficile à expliquer. Mais c'est vrai que le fait de revendiquer cette langue, elle était longtemps
bannie,
elle a presque été bannie, elle a été annulée par le franquisme, et donc maintenant les Catalans, depuis la mort de Franco, ils essaient de la reprendre, de même, on va dire, de la mettre vraiment en avant en Catalogne. On parle catalan.
Ouais, ils revendiquent donc leur culture, c'est leur culture aussi, quoi.
Exactement. Mmh. Donc du coup, on s'est dit, attends, mais nous, ça fait des années qu'on habite là. Il nous fallait un morceau dans cette langue-là.
Vous habitez toujours là?
On va et vient. On est beaucoup en France et on est beaucoup à Barcelone.
D'accord. Ouais. Donc ça n'a jamais disparu,
non,
quoi.
Ça n'a jamais disparu.
Bon, ce morceau, quand on comprend pas un mot de catalan, ce qui est mon cas, c'est quand même. je suis une crasse. Hein, je suis désolée. Je parle ni espagnol ni catalan. Voilà. Et comme vous chantez pas tout le temps en anglais, c'est plus difficile pour moi. Bref. Tout ça pour dire que ce morceau à l'écoute, c'est quand même du groove, du soleil.
Bien sûr.
Et un côté un peu old school de revendiquer, c'est-à-dire que voilà, ça chaloupe tranquillement, sereinement et avec la banane. Et il me semble quand même que plus ça va, plus vous êtes souriant.
Ouais, écoute, ça veut dire que ça va bien. Hein,
oui, mais pourtant l'époque est noire. Hein.
En fait, je pense que il y a quand même des chansons sur l'album. On va aller chercher dans les tristesses, dans les difficultés. On va aller chercher là-dedans, mais de toute façon, c'est une constance depuis le début de ce groupe, c'est qu'on essaye de transformer ça en quelque chose de positif. Et souvent, d'ailleurs, l'aspect composition musicale a souvent rien à voir avec les paroles. On a fait des chansons qui peuvent paraître très sombres et dans les paroles être très positives. On a fait des chansons qui peuvent paraître très positives dans la musique et très sombres dans les paroles, voire revendicatives.
Oui, alors c'est justement la force aussi. C'est parce que sinon, ça serait plombant s'il n'y avait pas cette distanciation entre le texte et la musique. Vincent, qu'est-ce qui t'a donné envie, toi, de rejoindre ce combo qui est quand même très particulier?
Ouais, plein de choses, justement. La musique, déjà, voilà. Et puis l'activité. Et puis ça faisait envie, simplement, on se côtoyait un petit peu en parallèle parce qu'on jouait dans d'autres groupes qui faisaient partie du même label et on se croisait.
D'accord.
Et de les voir sur scène, d'entendre les morceaux. Tu te dis, si un jour j'ai l'opportunité de jouer avec eux, je ne vais pas hésiter longtemps.
C'est, d'accord.
C'est ce qui s'est passé.
Mais tu étais sensible à cet univers musical qui est du coup très foisonnant.
C'est un super terrain de jeu, quoi. On me dit, on peut faire plein de choses. Voilà, moi, ils m'ont amené sur des terrains où j'étais jamais allé, quoi. Justement, le côté un peu flamenco, tout ça. Et c'était aussi des challenges.
Il y a des titres qui sont, qui ont des relents, on va dire, ou des accents flamenco. Est-ce que tu as l'impression, Aurélia, que plus ça va, moins vous vous donnez de frontières ou de barrières, c'est-à-dire que vous n'avez plus grand-chose à prouver. Et donc, si vous avez envie justement d'aller sur le flamenco et puis d'après avoir un morceau qui tape plus sur des esthétiques rock, vous y allez, quoi.
Peut-être qu'avec les années, on a enlevé encore des barrières, on apprend aussi.
Oui.
Et c'est vrai que, par exemple, le flamenco, c'était... moi, par exemple, je suis née à Paris, d'origine italienne. C'est vraiment un style que je ne connaissais pas avant d'arriver en Espagne. C'est très codifié, c'est très compliqué, le flamenco. Donc voilà. Mais avec les années, en fait, on se rend compte que on peut aller piocher dans des styles, on peut s'adapter. Et c'est comme dit Vincent, c'est un challenge, en fait. Et c'est un challenge d'allier ça avec d'autres styles d'explorer un peu, de jouer, parce que sinon, nous, on n'a jamais voulu vraiment se cantonner vraiment à un style. C'était trop ennuyant. Il fallait le challenge de se dire, on va aller chercher là-dedans, même dans la musique latine. Moi, par exemple, quand je suis arrivée, jouer de la clave, chanter en même temps, danser en même temps, et puis après enchaîner avec un couplet de rap, Waouh. Bah pour moi mais... c'était l'école quoi.
Physiquement c'était, vraiment... c'était aussi compliqué quoi. C'est ouais. exigeant.
Ouais c'est exigeant mais c'est comme ça que tu grandis dans la musique et que tu comprends plein de trucs en fait parce que même si je venais du monde du rock and roll de la folk en fait j'ai compris avec tous ces styles là j'ai compris plein de choses, j'ai compris le groove, j'ai compris la danse. J'ai compris, enfin, je sais pas comment dire, j'ai compris à comment faire parler mon corps aussi, parce que la musique, c'est pas que écouter, c'est aussi la sentir à l'intérieur. Et du coup, voilà, on s'est dit, en fait, on va utiliser ça comme un collectif, et un collectif un peu, ouais, école, ouais. Pourquoi pas apprendre des trucs.
Alors, un collectif assez atypique aussi, parce que donc, tu l'as dit, plusieurs nationalités, plusieurs cultures, et presque multigénérationnelles, parce que vous n'avez pas tous le même âge.
Yes.
Et ça aussi, c'est assez atypique, finalement, dans un groupe classique.
Ouais, bah c'est vrai que... comment dire ? Je pense que tout ça s'est fait parce que, justement, au départ, on ne s'est pas posé de questions. Ouais, on n'était pas forcément là pour faire un groupe de musique. C'est ça qui était impressionnant, c'est que c'est la musique qui nous a choisis. Et sans s'en rendre compte, au bout de quelques mois, on était déjà en train de jouer dans des salles, dans des festivals, dans des trucs. Et on ne s'en est presque pas rendu compte. Et on a fait vraiment à l'ancienne, en fait. On s'est dit, bon, bah, qu'est-ce qu'on fait ? Bah, la semaine prochaine, on a un concert. Bon, bah, d'accord, il faut qu'on trouve une fourgo. Enfin, c'était vraiment... tu vois, c'est pas calculé du tout.
Mais... Et quand tu dis la semaine prochaine, il fallait qu'on trouve du matériel pour assurer le concert. Ah. En fait, c'est comme ça que vous vous êtes imposé. C'est comme un groupe de scène.
Ouais, non, complètement, ouais. C'est là où on a trouvé...
Ça a été un peu magique aussi, parce que c'était pas gagné sur le papier non plus. Vous êtes nombreux. Sur scène, vous êtes 6. Donc, ça veut dire qu'il faut quand même savoir s'écouter. Il faut pas en mettre de partout. Effectivement, il y a des voix qui sont très présentes. Elles sont mixées devant sur l'album et elles sont faites pour être entendues, y compris en concert. Donc, ça veut dire que, voilà, il faut passer du hip-hop à un chant clair sans se mélanger les pinceaux et en s'écoutant. Et ça a marché, ça.
Yes. Ben, ça a été aussi un challenge pour le sondier.
Oui.
Mais... Je pense que la meilleure école qu'on ait fait au départ, c'était de jouer dans la rue. Parce que quand t'es dans la rue, en fait, ton but, c'est qu'il faut qu'à la fin de la journée, t'aies tant d'euros dans ton chapeau pour aller faire les courses. Donc,
il y a 6, il en faut.
Et à 6, il en faut beaucoup des euros. Ouais. Donc du coup, c'était, pour moi, ça a été la meilleure école parce que tout d'un coup, déjà, tu pouvais pas te cacher derrière un micro, tu peux pas te cacher derrière un matériel ou un joli son, en fait. Donc c'était vraiment... l'énergie que tu allais donner, qui allait attirer l'attention. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui a fait un peu l'identité du groupe, c'est que cette énergie qu'on a, on l'a gardée ensuite quand on s'est transféré sur des scènes. Et c'est ça qui fait là, c'est là où on trouve notre kiff, en fait. C'est vraiment d'échanger avec les gens. Si tu viens voir un concert de la cafétéria, tu verras vite que le public est aussi important que les musiciens qui sont sur scène.
Ouais, il y a un vrai partage. Et en même temps, puisque le groupe a grossi, qu'il a grandi, qu'il s'est assez bien exporté, il vous fallait aussi des supports et s'est posé donc assez rapidement aussi le problème la question de l'enregistrement et du studio. Alors bon, vous n'êtes pas non plus des mangeurs de studio invétérés. C'est quoi ? C'est le sixième album ?
C'est le sixième album.
Donc en 15 ans, voilà, c'est raisonnable. Mais enfin, c'est quand même un rythme aussi quand même soutenu.
Ouais.
Et là, vous avez encore expérimenté sur cet opus-là.
Ouais, là sur le dernier opus, on a, pour la première fois, on a travaillé avec un producteur et arrangeur musical.
Oui.
Extérieur, externe au groupe. Et ça a été
c'est
vraiment...
C'est
Matisse Akenguin, ouais. C'est un super musicien, pianiste.
Et ça, c'est drôle aussi, parce que c'est le plus jeune quasiment. Enfin, c'est jeune homme, quoi. Et qui est sélectionné pour les Inouïs du Printemps de Bourges, je crois, cette année. Donc, enfin, il y a aussi cette espèce de paradoxe de dire, ben voilà, la Cafétéria, qui est un groupe quand même reconnu, installé et tout ça, fait appel à un tout jeune homme pour l'aider dans la production de son disque, quoi. C'est incroyable, je trouve.
C'était très intéressant.
D'accord.
Parce que justement, tu sais, quand tu es dans ton flow, tu es dans ton groupe, tu es dans ta sauce, tu es dans ta famille, quand il y a un nouveau membre qui arrive, il y a une fraîcheur.
Bah oui,
il y a une vision extérieure, il y a une fraîcheur et c'est ça qu'on cherchait. Et Matisse, il a tout de suite compris en plus notre univers et il a su amener son univers, sa fraîcheur. Et ça a vraiment, pour nous, ça nous a fait vraiment encore découvrir d'autres choses, quoi.
D'accord. Pour être franche, quand j'ai vu ça sur le papier, j'étais recherchée en me disant, mais je me suis trompée de nom, c'est pas possible, parce qu'en plus, on est à des années-lumière de ce qu'il peut faire lui par ailleurs.
Ouais, carrément.
Donc,
je te dis, en fait, on a utilisé de part et d'autre la musique pour apprendre. C'est-à-dire que Mathis, c'était un challenge vraiment pour lui de faire la production de cet album.
Il a fait les arrangements, en fait. Il a travaillé sur les arrangements.
Et en même temps, il avait un savoir-faire que nous n'avions pas. Tu comprends ? Donc, nous, on lui a apporté peut-être la complexité de devoir s'adapter à des styles très, très différents.
Et puis l'énergie, et puis le
Exactement,
groupe. Parce
ouais.
que c'est quand même aussi une personnalité assez, qui a une image, en tout cas, de quelqu'un de seul, quoi. Enfin, je veux dire, ouais. qui est un artiste solo, quoi. Enfin,
après, il joue dans un super groupe qui s'appelle Dead Chic. Je ne sais pas si tu as écouté aussi. Je trouve que Mathis, il a un espèce de côté un peu, tu sais, ce génie de la musique. Il entend des notes dans sa tête et c'est une évidence, mais... Et ça, c'était très cool.
Après, il y avait une belle humilité aussi de votre part que de faire confiance à quelqu'un que vous ne connaissiez pas forcément très bien, qui n'était pas un pote, qui n'était pas...
Ouais, mais c'est... je pense que les groupes qui restent tout le temps dans leur truc sans vouloir aller voir plus loin, ouais. ça a peut-être tendance parfois justement à fermer des portes et à rester... dans une seule direction. Donc nous, on voulait vraiment s'ouvrir.
Bon, la cafétéria Rora, c'est vraiment un groupe qui se renouvelle, qui avance toujours, comme quoi l'aventure est belle. On écoute donc le single. La vie est belle, à toi de le dire.
La vita est belle.
Merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous.
Merci à toi. Merci.
Très belle route à vous et à très vite.
À la vita bella, comme nous sommes habités.
Param sample, musi yandi tanken, di lippen bis sie sippe wegen mir Lebens getanken. Und gleichzeitig mir das Leben nehmen, als ob's in meinem Leben nicht genug geben gab. Da ist was es braucht, ist Style, Fire und ich eins bin im Gegenzug weiter. It's unconnected wie Wi-Fi, du bist weit weg und das Leben geht weiter.
Ensuite, direction les sphères expérimentales avec Monolithe Noir, présenté par Cédric de Fréquence Mutine, un projet musical dirigé par Antoine Pascalini. Monolithe Noir explore une musique électronique aux influences ambiantes, krautrock et expérimentales, construite comme un voyage avec des textures sonores et des paysages mélodiques.
Antoine, tête pensante de Monolithe Noir, est passé en studio nous présenter son nouvel album. Rencontre.
De Monolithe Noir, il est là pour nous présenter son quatrième album, La Foi Gelée, qui sort le 27 février prochain chez Humpty Dumpty. Antoine, c'était la belle occasion aujourd'hui de t'accueillir parce que t'as plein d'actu différentes qui t'attendent là, dans des délais plus ou moins courts, plus ou moins longs. Il y a ton activité de musicien avec ton projet de Monolithe Noir qui est en pleine actualité avec un album à sortir là d'ici quelques jours. Et puis à côté de ça, tu as aussi monté une asso, tu vas proposer de l'orga de concerts et de soirées sur Brest. Parce que oui, Antoine, tu as été sur Brest, tu es parti, tu nous as quittés, mais tu es revenu.
Je vous ai abandonné pour quelques années. J'étais là jusqu'en 2007, j'avais fait mes études ici et puis j'avais un groupe qui s'appelle Silence Radio. À l'époque, et puis voilà, il y a eu un moment où il fallait que j'aille faire un petit tour ailleurs pour voir, Et puis là, ça fait 3 ans que je suis revenu.
Et on va peut-être commencer par parler de Monolith Noir, parce que c'est une grosse actu, on le disait, ce 4e album qui sort chez Humpty Dumpty à la fin du mois. Projet très personnel, projet aussi, j'ai envie de dire, pas protéiforme, mais qui évolue au fur et à mesure de tes envies, de tes inspirations. Est-ce que c'est le principe de toute façon, quand on développe un projet solo, qui soit de fait mouvant?
Et oui, je pense qu'à chaque fois que je commence à travailler sur un album, je me dis pas que ça va être un disque de Monolith Noir. Je suis ce que j'ai envie de faire, et puis de toute façon, j'ai aucune pression. Je suis toujours dans un écosystème assez do it yourself et tout ça, avec un label là, qui m'accompagne sur un deuxième album, donc c'est chouette. Il y a un suivi et tout ça, mais en gros, je fais un peu ce que je veux, et puis. Il se trouve que là, je suis allé plus vers quelque chose de rock, quoi, de voir pop. Donc, j'ai l'impression de faire un peu des boucles parfois, mais bon.
Clairement rock, en tout cas. C'est vrai que les guitares sont sorties. Elles sont puissantes, elles sont lourdes. Mais tu le disais, il y a toutes ces petites phases, ces passages d'éclaircies qu'on retrouve aussi à travers les chansons. Ça, c'est les mélodies qui apportent cette éclaircie?
Je pense qu'il y a les mélodies, puis il y a le chant, en fait. Et il y avait comme une envie, je pense, d'amener le chant un peu plus en avant. Quand j'ai commencé Monolith Noir, j'étais sur quelque chose de très, très en retrait, beaucoup plus abstrait et tout ça. Et puis, il y a un moment où j'ai eu une envie de refaire des pop songs. C'est pas non plus Taylor Swift, mais d'amener la voix, quoi. Et c'est ça qui fait que parfois, c'est plus accueillant aussi pour celui ou celle qui écoute la musique.
La voix comme un instrument ou la voix comme un porte-voix?
Quand on chante, il faut forcément écrire des paroles, quoi, à un moment. Et j'aime bien me poser la question de ce que je vais dire, quand même, avec le peu d'anglais que j'ai, mais je fais de mon mieux. Là, effectivement, il y avait des histoires, quoi. Notamment, là, cet album était un peu marqué par la paternité. C'est un peu cliché de dire ça, mais je comprends maintenant les gens qui écrivent un peu là-dessus. Et puis, un truc un peu plus con, c'est que à cette époque-là, quand j'écrivais les paroles, j'ai perdu mon chat. Donc j'ai passé des semaines en recouvrance à tourner en rond. Et puis, ça m'a donné une autre approche aussi du quartier et puis des gens qui habitent.
Le fait de revenir à Brest, justement, ça a été une inspiration. La ville, retrouver cette ville que tu as connue, peut-être que, je ne dis pas que tu l'avais oubliée, mais peut-être que, est-ce que tu l'as trouvée changée? Est-ce que du coup, elle a joué justement sur tes inspirations?
Bon, les villes jouent toujours sur mon inspiration. De toute façon, il y en a qui, après, il y a des villes qui marchent plus que d'autres. Par exemple, j'ai vécu à Bordeaux, c'est pas une ville qui m'a inspiré spécialement une écriture musicale. Et par contre, quand je suis allé à Bruxelles, quand j'y ai vécu, ça m'a apporté quelque chose. Donc je pense qu'il y a un truc avec les villes un peu plus rudes, quoi. Et Brest en fait partie, quoi, parce qu'il y a une espèce de tempête, je parle d'une tempête permanente, enfin en ce moment un petit peu, quoi. Mais voilà, il y a quelque chose qui me met en mouvement, quoi, en tout cas dans cette ville. Et puis, j'avais jamais vécu à Recouvrance. Et pour moi, c'était une autre découverte, donc j'ai vu Brest vraiment avec un autre regard, quoi.
Voilà, Brest, rive droite pour celles et ceux qui nous écouteraient de loin. En tout cas, ce 4e album donc de Monolith Noir qui s'intitule La Foi Gelée, je rappelle, sortira le 27 février chez Humpty Dumpty. C'est aussi un des titres que tu as clippé sous format presque court-métrage, on va dire. Il y a quelque chose de très scénarisé. Un titre aussi, on retrouve Fabiola en invité. D'ailleurs, il y a plein d'invités sur ton album.
Il y en a quelques-uns. Il y a, en tout cas, Fabrice chante sur La Foi Gelée. C'est un groupe dans lequel, Fabiola, je jouais dedans quand je vivais à Bruxelles. Et puis voilà, c'est un grand ami à moi et je sais qu'il a toujours le don pour aller chercher des thèmes de chansons un peu à côté des choses que j'imaginerais pas forcément. En l'occurrence, ce titre parle de l'ayahuasca et des psychobilles, je crois que c'est ça. Au Mexique, voilà, ça ne me serait pas venu à l'idée. Et il se trouve que j'aime bien sa manière d'approcher l'écriture, donc.
Thank you.
Alors, tu fais appel justement à des collaborations, à des invités comme Fabrice. C'est aussi le besoin qu'ils enrichissent le morceau qui est déjà en gestation, préparation, ou comment ça fonctionne?
Parfois, je me dis, le morceau, il ne va pas aller plus loin, a priori, ou alors il va aller à un endroit que je connais déjà. Donc, c'est peut-être bien de demander à quelqu'un d'y amener quelque chose qui sera inattendu. Et puis, il se trouve que ça a souvent fonctionné comme ça. J'ai bossé avec Peter Broderick ou Rosie Plain, etc. Et à chaque fois, il y avait pas de direction. Je leur envoyais le titre, ils chantaient dessus. Et puis, pour moi, c'était bon et on y allait, quoi. Il n'y avait même pas de correction à apporter par la suite.
Alors, je parlais de La Foi Gelée, hein, le titre de l'album, et aussi ce deuxième single que tu as sorti il y a quelques temps avec cette vidéo où on retrouve la formation actuelle et on voit bien en effet que on parlait de guitare de sortie, on parlait de quelque chose de brut en termes de son, on parlait d'énergie live. On le ressent à travers cette vidéo.
Et c'était un peu l'idée en tout cas, effectivement, d'amener la guitare, mais aussi la basse en fait, parce que la basse est complètement. Directrice dans tout ce que j'écris, même la guitare arrive un petit peu vraiment à la fin de tout ça parce que je compose très peu à la guitare. Alors je sais pas si c'est Brest, hein, qui allait dans ce sens-là, mais je me suis dit allez, ça y est, c'était presque attendu, quoi, que finalement on arrive à un trio qui soit plus sous cette forme. Et c'était pas prémédité. En tout cas, c'est plus souvent des rencontres, quoi. Enfin, c'est les gens avec qui j'avais envie de jouer. Donc, on a fait ce qu'ils savaient faire le mieux, quoi.
Ben justement, présentons-les, parce que tu t'es entouré de musiciens expérimentés, bien connus de la scène brestoise.
Tout à fait. Donc, Arnaud Carmarec à la basse et au chant, et Thibaud Derrien à la guitare, au clavier et au chant. Donc, Arnaud Carmarec qui jouait dans Mnémotechnique. Et Thibaut, qui joue dans Les Sneux, entre autres.
Je me suis toujours posé la question, quand on est comme ça sur des projets très personnels, qu'on s'entoure de musiciens, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des longues étapes de discussion, de préparation, un peu comme quand on forme un nouveau couple? Des fois, ça peut prendre un peu de temps, tu vois, on se cherche, on se regarde, on discute, on échange avant de passer à des premières phases de répétition pour savoir si la mayonnaise va prendre. Comment ça fonctionne? Dis-nous tout, Antoine, dis-nous tout.
Je n'ai jamais eu l'occasion de ne pas renouveler un rendez-vous par la suite, parce que ça peut être le genre de choses assez gênantes quand on se dit on fait une ou deux répètes et ça le fait pas. J'ai eu du bol, enfin en général j'essaye de prendre tout ça en considération, de me dire est-ce que ça va vraiment le faire, parce que là on va partir pour un album en tournée et tout ça, donc c'est pas la peine de décevoir qui que ce soit, quoi. Donc, après moi c'est des copains, je joue pas avec des gens que j'apprécie pas, et puis je suis pas dans un milieu où on joue avec des musiciens de session, on joue avec des gens qu'on apprécie. Et puis parfois tout le monde a un peu ses faiblesses, on joue avec ça, quoi, et c'est cool, et en plus ça permet de moi aussi de faire accepter mes propres faiblesses, quoi. On est dans cette cette entente de la scène indé de compréhension, quoi.
Le morceau donc La Foi Gelée, qui est aussi le titre de ce quatrième album, peut-être nous parler un petit peu de avec qui tu as bossé pour cette vidéo.
J'ai travaillé avec Nico Pelletier, qui est le réalisateur co-réalisateur d'un film sur Matt Elliott qui s'appelle What the Fuck Am I Doing on This Battleship, je crois que c'est ça. Donc il avait remporté un prix à l'époque au Festival Vision du Réel, qui est, je trouve, un des meilleurs films musicaux que j'ai vu, je pense, assez barré, mais il faut dire que le personnage est là aussi, quoi. Et donc Nico Pelletier, tout simplement, on jouait ensemble, on s'est rencontrés parce qu'il travaillait à l'ISB, et que j'ai beaucoup de copains à l'ISB, donc Image et Son Brest, pour ceux qui ne sont pas à Brest. Et donc il est monteur, réalisateur, et on s'était dit là qu'on pouvait s'accorder sur des questions esthétiques, quoi. Et je savais que le morceau pouvait lui plaire, et donc on allait dans les Monts d'Arrée, et puis on a fait ça, quoi. Enfin, on a même pas vraiment scénarisé, on avait deux, trois idées, mais... Et puis il y a Victor qui joue, qui vient aussi de l'ISB, qui a pris le son de la session et qui s'est improvisé comédien pour la vidéo de La Foi Gelée.
C'est vrai que pour le connaître un petit peu, je pense qu'il y a un rapprochement très naturel, en fait, dans même la façon d'aborder les choses, que ce soit musical, mais aussi en termes d'image, avec Victor.
Bah, avec Victor, c'est simple, c'est une des premières personnes avec qui je me suis lié en arrivant à Brest, donc Victor Blanchard, qui fait de la création sonore. Moi, je l'ai rencontré par le biais plutôt de la création sonore, de la radio, parce que je me mettais au documentaire sonore à l'époque. Donc voilà, on s'est liés autour de ça, et puis on est devenus amis, et puis voilà, quand on devient un pote, eh ben, on a envie d'embarquer un peu les copains dans tous les plans plus ou moins foireux.
DJ et performeuse du collectif Niégué Niégué, elle conçoit des sets bourrés d'énergie solaire qui parcourent des rythmes afro-caribéens et brésiliens à la scène électronique underground d'Afrique et de l'Est et du Sud.
On est donc sur le plateau Ferrarock pour les bars en trans depuis la parcheminerie, plein centre-ville de Rennes, dernier jour des bars en trans. Et j'ai le plaisir de recevoir Pau sur ce plateau pour clôturer cette émission de radio depuis 3 jours. Déjà, bonjour Pau, comment
Salut.
Ça va
Ça va, super.
Ça va, alors. Oui, carrément, t'es arrivé aujourd'hui là
Oui, non, je suis arrivé hier.
Ok, t'as pu t'imprégner un peu.
Voilà, c'est ça.
De l'événement, puisque tu joues ce soir du côté de la cavale. Donc, alors, tu devais jouer en live, mais tu vas aussi jouer en DJ set.
C'est
C'était
ça.
Pas prévu, mais on va en reparler. Mais juste avant, est-ce que tu peux me parler un petit peu de ce projet, Pau, l'esthétique générale, de ce que tu recherches, ce que ça raconte en fait, Pau.
Ok, bah mon live, en fait, voilà, c'est des expérimentations vocales, on va dire. C'est de la musique qui est faite exclusivement à base de ma voix, que je modifie à l'extrême jusqu'à ce qu'on ne reconnaisse plus que ce soit de la voix, et pour créer mes propres kicks, les sons, les bruits, les textures un petit peu. Et y a les tracks, et puis il y a le live qui est vraiment une performance avec ce personnage qui vient terroriser un petit peu le public. C'est une performance qui n'est pas faite pour que les gens soient à l'aise, on va dire. Je viens un petit peu secouer, je viens déranger, voilà, que ce soit physiquement ou par les émotions. Voilà, parce que ce personnage est un petit peu, voilà, jaillit des profondeurs des émotions humaines, agréables comme désagréables.
Comment était venue cette idée de tout faire tourner autour de ta voix, justement, de ne pas aller vers du sample et de faire un truc 100% vocal?
C'est vraiment venu d'une nécessité, tout simplement, parce que j'ai pratiqué et appris la musique de manière très instinctive. Un petit peu avec des profs, j'ai fait quelques cours par-ci par-là, etc., de guitare, de piano, mais j'ai pas vraiment fait de... Enfin voilà, le solfège et moi, on n'est pas amis, quoi. et donc, disons que c'était plus facile pour moi, quand j'étais à la recherche d'un son, de le créer avec ma bouche, avec ma voix, que d'essayer avec un instrument, que ce soit un instrument, soit une guitare ou un piano, ou alors quelque chose carrément sur Ableton, sur les logiciels de musique, quoi. Donc c'était juste plus facile pour moi de travailler de cette manière-là.
C'est vrai que c'est la réflexion que je me suis faite en écoutant ton premier album, Coquillage, donc, qui est sorti il y a quelques années, que tu étais peut-être plus à la recherche finalement de sound design, de texture, plus que d'harmonie finalement.
Oui, c'est ça. Ouais, c'est vraiment plus... Enfin, de la même manière dont mon live est très centré autour des impressions, des émotions, ce qui va être créé en fait en contact avec le public, au niveau du son, c'est complètement des expérimentations et c'est une ambiance plus que voilà, une précision des sons et d'instruments, on va dire.
Et comment ça se matérialise sur scène, ce rapport finalement à ta voix, d'un point de vue très concret? Comment ça se passe sur scène?
Sur scène, au niveau de la performance?
Ouais.
Ok. Bah, j'ai donc les tracks que j'ai créés à base de voix. Et au-dessus, je chante, je crie, je grogne un petit peu. J'essaie d'utiliser un petit peu tout l'éventail des sons, des capacités de ma propre voix. Et voilà. Et sur scène, c'est vraiment la rencontre avec le public, comme je disais, physiquement, c'est-à-dire que je passe beaucoup de temps dans le public à créer des moments avec les personnes qui sont là. Et voilà, c'est ça.
T'as plusieurs fois cité le mot performance depuis le début de notre discussion, et puis j'ai vu quelques images de tes concerts. C'est vrai que c'est quelque chose de très habité, véritablement incarné. Ça dépasse vraiment le cadre de la musique. J'ai vu que t'étais comédienne aussi à côté. J'imagine que que cette activité de comédienne, ça t'aide pas mal aussi.
Absolument, oui. J'ai fait en fait le cours Florent à Paris pendant 3 ans, et ensuite je suis partie au Canada. Et j'ai fait une autre école de théâtre et cinéma là-bas qui s'appelle TFS. Et clairement, la manière dont j'interprète mes chansons aujourd'hui avec ce personnage qui est habité, c'est grâce à ce que j'ai appris en théâtre et que j'utilise allègrement pour avoir, voilà, une personnalité sur scène qui est créée de toutes pièces, quoi.
Et tu es aussi DJ, tu ne fais pas que ce live, tu tournes aussi sous forme de DJ set. Comment tu abordes ton activité de DJ parallèlement à ce live assez atypique, très personnel, et derrière ton activité de DJ en comparaison?
Alors, je dis un petit peu que le live, c'est la face sombre de peau, voilà, comme tout le monde en a une, quoi, voilà, et le DJ set, c'est plus... Ça va être beaucoup plus dansant, beaucoup plus solaire, beaucoup plus... voilà, c'est pour faire la fête, quoi. Même si dans le DJ set aussi, je peux partir dans des choses qui sont un petit peu plus speed, un peu plus rentre-dedans et, hard. Enfin, voilà, c'est vraiment deux aspects complètement différents, deux, deux aspects de ma personnalité qui sont complètement différents.
Ouais. D'ailleurs, ce soir, tu fais les deux. Alors, c'était pas prévu, donc tu remplaces l'artiste qui était prévu avec toi sur ce plateau. Donc, tu vas te retrouver à faire le live puis le DJ set. Ça te rajoute pas un stress un peu supplémentaire ?
Un petit peu, mais avec le temps, j'ai réussi à switcher entre les deux personnalités assez
tu peux
assez
rapidement facilement. Passer de l'un à l'autre.
Voilà, c'est ça. Il faut juste que j'ai le temps de me, disons, de me démaquiller, de me décoiffer, etc. Je fais la petite remise en personnalité normale, parce que sinon, je mixe avec un peu une tête de démon, ce qui serait un peu chelou, quoi.
On va reparler de ton premier album. Alors moi, j'ai mis du temps à comprendre qu'il s'agissait de coquillages. C'est finalement en écoutant, il me semble, la première piste du disque que j'ai reconnu ce mot. Mm-hmm. Je cherchais même une traduction en anglais, co-siège, je ne voyais pas ce que ça voulait dire. Tu peux me parler justement de cette orthographe ? Pourquoi avoir décidé de l'orthographier de la sorte ? Alors je rappelle pour les gens, c'est écrit C-O-C-I-A-G-E.
Alors c'est très très simple. Mon directeur de label, qui est anglophone, l'écrivait comme ça. Et donc du coup, je me suis dit, je l'ai pas corrigé et on a sorti l'album voilà qui s'appelait Coquillage mais appelé de cette manière-là.
Ça l'a fait rire, j'imagine.
Lui ? Oui. Il sait toujours pas.
Ah, il sait toujours pas. Ok, mais en tout cas, très bonne idée. Il saura un jour, j'espère. Peut-être en écoutant cette interview, mais en traduisant l'interview. On va parler du collectif Niégué Niégué, je ne sais pas si je le prononce bien, avec lequel, qui t'a accompagné quand même, qui a fait un bout de chemin avec toi depuis quelques années. Est-ce que tu peux me parler un peu de ces gens qui font quand même ce festival, etc. Et puis cette aura un peu internationale, et puis ta rencontre avec eux, et puis ce que vous avez fait tout simplement ensemble.
Mm-hmm. Bien sûr, ouais. Niégué Niégué, je les ai rencontrés en fait en 2018. Je suis allée faire un voyage vraiment pour rendre visite à un ami en Ouganda. Et on a, voilà, il a invité Ray Sapiens, qui est un producteur congolais qui était basé en Ouganda à l'époque. On a jamé ensemble, on a écrit 6 musiques en une nuit. Et en fait, il m'a invité à revenir et à jouer au festival en septembre. Ça, c'était en mai ou quelque chose comme ça. Et donc, je suis revenue en septembre en n'ayant fait aucune recherche sur le festival, en ne sachant pas du tout où j'allais mettre les pieds. Et là, pendant 4 jours non-stop, parce que c'est du jeudi à partir de l'après-midi jusqu'au lundi matin non-stop, il n'y a pas d'arrêt de la musique, j'ai pris une claque phénoménale. Dans le sens où, moi, je pensais que j'écoutais déjà la musique un peu underground, un peu... Mais non, par rapport à ce qui s'est joué au festival, j'écoutais du commercial. J'écoutais du top 50, quoi. Et donc, voilà, on a fermé le main stage, le dernier jour du festival, avec ce projet, avec Ray Sapiens et un ami qui s'appelle Alex. Et puis voilà, depuis j'ai continué à collaborer, on a fait une petite tournée avec Ray Sapiens, j'ai appris à connaître les gens du label et je suis revenue tous les ans pour jouer à Niégué Niégué. J'ai développé mon projet perso, le projet de DJ également. Et en fait, Niégué Niégué, c'est un collectif qui vraiment musicalement donne sa chance à tout le monde. Et vraiment pousse les limites un petit peu de ce qui sort en termes de musique électronique et aussi donne une plateforme à ce qui sort en termes de musique électronique est-africaine, mais aussi on a des artistes d'Afrique de l'Ouest, d'Afrique du Sud. Et voilà, ça a été une rencontre vraiment hyper importante parce qu'aujourd'hui, je ne serais pas là si je n'avais pas rencontré Niégué Niégué.
Oui, c'est vrai que c'est un beau label. D'ailleurs, c'est eux qui ont sorti ton disque, c'est un de leurs sous-labels.
Qui ça ?
Niégué Niégué, c'est un sous-label de Niégué Niégué qui a sorti ton disque.
Oui, c'est Hakuna Koulala. Oui, Hakuna Koulala et Niégué Niégué, c'est les mêmes. Enfin, c'est un sous-label, c'est les mêmes personnes. Et ouais.
Petite question un peu différente. Comment tu te sens dans la scène électronique actuelle ? Dans tout ce qui se passe, on a l'impression qu'il n'y a jamais eu autant d'artistes, peut-être. Il y a cette course, peut-être, aussi aux réseaux sociaux, à Instagram, à la création de contenu. J'ai l'impression que tu n'es pas trop là-dedans, toi.
J'essaye, mais sans grande conviction. Aujourd'hui, je trouve ça un petit peu dommage que le nombre de followers Instagram ait plus d'impact que la musique qu'on fait. Pour être booké, que ce soit des festivals ou dans des salles, etc. Parce que finalement, ça n'a plus rapport avec l'art, ça a rapport avec l'argent et les gains potentiels de booker certains artistes. Voilà, donc non, moi les réseaux sociaux, j'essaie de poster mon actu, j'essaie de garder les gens au courant un petit peu de ce qui se passe, mais c'est vrai que je suis juste pas très bonne à ça et j'ai pas envie de me mettre la tête dedans, quoi.
T'es optimiste sur l'évolution de tout ça ?
Écoute, je sais pas. Moi, je pense qu'il faut qu'on continue de faire ce qu'on fait et qu'on ne se plie pas, surtout dans la scène underground, en fait, qu'on se plie pas aux exigences de la musique mainstream, de pouvoir toucher le plus de monde possible. Je pense que les gens ont besoin aussi d'être dérangés musicalement. On peut pas, enfin, on a besoin d'avoir des choses qui vont nous provoquer des questions, et voilà. Et donc il faut pousser là-dedans. Il faut qu'on garde cette petite niche, quoi. Et elle est absolument essentielle à ce qu'on ne soit pas tout en train d'écouter des morceaux AI d'ici 20 ans, quoi.
C'est quoi ton rapport à ça, d'ailleurs ? Ça te fait peur, l'IA ?
Je ne sais pas encore. Moi, il y a eu plein de discussions différentes où des gens m'ont dit « Non, mais il faut que tu t'y mettes, c'est ça le futur, etc. » Moi, je suis désolée, je ne suis pas du tout dans cette optique-là de me dire « Ok, je vais utiliser l'AI parce que c'est dans cette direction qu'on va. » Parce que sinon, si on compare, je sais pas, avec des gens qui pratiquent encore le métier à tisser traditionnel, ces gens-là ne se sont pas dit « Ah ben non, mais je vais prendre maintenant des machines à coudre électriques. » Parce que sinon, ça c'est un artisanat qu'on aurait perdu, en fait. Et ça fait partie de notre culture, ça fait partie, enfin, de plein de cultures différentes, que ce soit les métiers à tisser au pays d'Ogon ou que ce soit les métiers à tisser de tapisserie ici en Europe, quoi. Donc voilà, peut-être que je suis un petit peu que je vais rester dans le passé à l'âge de pierre, disons musical, mais ça me va très bien comme ça. Et en plus, j'y suis pas parce que c'est pas comme si je jouais des instruments, de la guitare classique ou du violon ou quoi que ce soit. Non, je fais de la musique électronique, donc on est déjà à un autre niveau en fait musical. Mais pour le moment, je suis pas prête à aller plus loin.
Je vais te poser une dernière question. C'est quoi la suite pour toi, là, les projets qui arrivent sur 2026, tournée, album, je sais pas.
Ouais, j'ai un album qui va sortir l'année prochaine. Donc là, on est en train de finaliser tout. Donc, il sortira en 2026, au printemps probablement. Et puis, toujours autant que possible, des concerts, que ce soit DJ set ou live, et tournée, quoi. Voilà.
Bah, je te remercie beaucoup d'être passé sur le plateau des Radio Ferraroc. On te souhaite un bon concert, mais aussi un bon DJ set.
Merci.
Ce soir, du côté de la Cavale. Merci, Pau, et à bientôt.
Salut.
C'était votre édition de Dig Dig Diggers. Cette semaine, on met en lumière deux sorties. La Cafetera Roja, avec l'album My Path. Un nouvel opus, signé Green Pist Records, sorti le 27 février, plongé dans l'univers contagieux et métissé de la Cafetera Roja, où les langues, les rythmes et les ambiances se croisent pour une expérience musicale haute en couleurs. Notre deuxième découverte de la semaine, c'est Monolithe Noir, avec l'album La Foi Gelée, autre coup de cœur du moment, sorti aussi le 27 février sur Humpty Dumpty Records. Avec son son électronique organique et ses textures immersives, Monolithe Noir nous entraîne dans une exploration sonore aussi froide qu'envoûtante. Rendez-vous comme toujours sur le site de laferrarock.org pour encore plus de découvertes musicales. Ça a été un plaisir pour moi de vous accompagner pendant deux semaines. Restez curieux et curieuses, et j'espère vous revoir.